Bonjour, bonjour à tous. Je vous invite à vous poser une question curieuse. On est avant Noël. Eh bien, la question que je vous pose, c'est est-ce que Jésus existait avant Jésus? En gros, c'est ça. Et je vous invite donc. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Galates au chapitre 4. Donc vous l'avez affiché ici. Lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il est question là d'un moment fixé par Dieu qui est arrivé. Et ce moment, c'est le moment de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, Luc précise les circonstances politiques de cette venue, un recensement, le nom des gouverneurs, ce qui a permis aux historiens de dater la naissance de Jésus. Et c'est ce que nous allons fêter à Noël, même si nous savons bien que la date du 25 décembre est totalement fantaisiste. Nous nous réjouissons donc de cette venue, puisque le but de Dieu, c'était de nous libérer de la loi, du régime de la loi et de ses conséquences, c'est-à-dire de notre condamnation. Mais est-ce que la venue de ce bébé, au moment fixé par Dieu, est-ce que c'est vraiment le début de l'histoire de Jésus? Avant la naissance de ce bébé à Bethléem, est-ce que Jésus existait? Alors, vous allez me dire, c'est une drôle de question. En ce qui concerne Jésus, un être particulier, puisque en Jésus se trouve un homme, l'homme Jésus, qu'on a baptisé Jésus, c'est un terme un peu impropre, qu'on a nommé Jésus, que ses parents ont appelé Jésus, mais aussi dans cet être-là se trouve une nature divine qui existait évidemment avant que le corps de ce bébé soit formé. C'est ce que je vous invite à voir. C'est ce que Jésus déjà a voulu révéler aux personnes de son temps. Et comme ça, un jour, dans une discussion avec les gens savants de son temps, avec les lettrés, c'est une controverse, et Jésus dit ceci, on trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il parle aux juifs de son époque, et il dit « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu. » Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Abraham, c'est entre 2500 et 2000 ans avant Jésus-Christ, en gros. Hein. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus semble bien dire, ici, qu'il existait avant Abraham. Il emploie même une phrase qui est bizarre sur le plan grammatical, parce qu'on aurait pu dire, avant qu'Abraham fût, j'étais déjà. Non, il dit « avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Et en disant cela, il s'attribue à lui-même le nom que Dieu s'était donné quand Moïse lui avait demandé son nom. On verra ce texte-là un peu plus tard. C'est le texte du buisson ardent dans lequel Moïse demande à Dieu « Mais comment tu t'appelles? Quel est ton nom ?» Et la réponse de Dieu est curieuse. Il dit « Mon nom, c'est Je suis. » Je me souviens encore de l'étonnement que j'ai eu lorsque j'ai lu pour la première fois ce texte. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Et je me souviens encore, je dis, mais alors pourquoi on ne l'appelle pas Je suis, nous, Dieu, puisqu'il dit mon nom, c'est Je suis. Et puis après, je me suis rendu compte que chaque fois qu'il était marqué dans notre Bible l'Éternel, c'était en fait ce mot Je suis qui était mis sous une autre forme. Jésus s'attribue donc le nom de Dieu. Et en même temps, il s'attribue la qualité d'éternité. Je suis celui qui est là en permanence, celui qui est éternel. Donc Jésus est en train de dire, avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis là, je suis éternel, je suis Dieu. Et les Juifs l'ont bien compris. Puisque pour eux, c'était un blasphème absolu de dire cela. Et ils prirent des pierres pour tenter de le lapider. Donc, on voit bien que Jésus lui-même dit, avant que ce bébé naisse, j'existais déjà. Est-ce qu'on a d'autres traces de ça, de son existence? L'Épître aux Colossiens, Cathy nous en a lu un petit bout tout à l'heure, nous dit, il parle du Fils bien-aimé. Il nous dit que en lui, le Fils bien-aimé, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Et plusieurs passages de la Bible nous présentent Jésus comme étant à l'œuvre dans la création. Pas sous son nom de Jésus, bien sûr, puisque le nom de Jésus, c'est son nom d'homme. C'est son nom de bébé, de petit garçon et d'homme. Il ne s'appelait pas encore comme cela. L'Épître aux Colossiens nous le révèle sous le nom de le Fils bien-aimé. L'Épître aux Hébreux nous dit aussi ceci. Hébreux 1:1, c'est facile à trouver. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils dont parle l'Épître aux Hébreux, qui vient après les prophètes, donc Jésus, il nous dit que c'est par lui qu'il a fait le monde. Donc, Jésus, avant Jésus, était le Fils créateur, celui qui a tout fait. Le principe créateur de Dieu. Un autre indice, une autre trace, c'est ce que Jean, lui, Jean ne va pas l'appeler le Fils, il va l'appeler la parole. Il va se servir d'un terme grec, puisqu'il écrit en grec, le logos, qui était un terme que les philosophes employaient, mais il va lui donner sa propre orientation. Et je vous invite à lire Jean 1, verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était... Alors là, on voit si vous avez une bonne vision des couleurs. Hein, parce que là, il est un petit peu difficile à voir. Hein, il se voyait bien quand tout était blanc. Après, j'ai mis du rouge. Ce qui fait que quand je l'ai relu ce matin, j'ai dit, t'as oublié un mot. Et puis en regardant près, non. Et c'est dommage parce que c'est un mot important quand même. Il était avec Dieu, il était Dieu. Il était lui-même Dieu. Difficile à comprendre d'être avec Dieu et d'être Dieu. Et Jean insiste, il était lui-même Dieu. Et il insiste encore, au commencement, il était avec Dieu. Donc, deux idées qui ont l'air difficiles à mettre ensemble. Il était avec Dieu, il était Dieu. Et pourtant, Jean insiste. Il insiste pour que ce qu'il veut nous dire ne passe pas inaperçu. C'est important ce qu'il nous dit là. Ce que nous, chrétiens, après avons appelé la Trinité, c'est-à-dire l'existence de Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, là il ne parle pas du Saint-Esprit, mais il nous explique que ce Dieu-là, il est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire et qu'on peut être à la fois avec Dieu et être Dieu. Et il continue, « Ce Dieu qui est avec Dieu, verset 3, tout a été créé par lui. » Et comme Jean aime bien insister, il nous dit la même chose à l'envers. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un peu plus loin, verset 10, « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant... » Le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Pourtant, certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas sur une naissance naturelle, ni sur l'impulsion d'un désir, ni encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Verset 15. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous. Alors dans ce texte, on peut se demander où est-ce que Jean parle de ce que nous appelons l'incarnation, c'est-à-dire de la venue de Jésus dans un corps. Alors, on peut se demander s'il en parle là, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli, ou s'il en parle seulement au verset 15. S'il en parle seulement au verset 15, là c'est clair, il est devenu un homme, ça veut dire que les venus dont il est question avant, ce n'était pas sous cette forme-là. Il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli, est-ce que c'est le rejet de Jésus, ou est-ce que c'est le rejet du Fils éternel qui déjà se manifestait avant dans l'Ancien Testament. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament, sinon l'histoire du rejet répété et répété encore de Dieu par son peuple. Et au sein de ce rejet, de quelques lumières, de quelques personnes qui saisissent qui est Dieu et qui veulent marcher avec lui. On peut dire quand même que d'après ce texte, la parole de Dieu, le personnage divin qui prendra ensuite corps dans l'homme Jésus-Christ, est déjà présent dans la vie des hommes avant même son incarnation, mais qu'il est souvent méconnu et rejeté. Comment est-il présent alors ? L'ange de l'Éternel, vous connaissez l'ange de l'Éternel? Il apparaît 61 fois dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Et cette expression désigne un être un peu curieux qui apparaît en général, qui apparaît pour des gens qui ont été des personnages clés dans l'histoire, Hein? Et il apparaît un temps, et puis après il n'est plus là, il disparaît. Et je vous invite à lire une de ces apparitions de l'ange de l'Éternel dans Exode au chapitre 3. C'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure, le buisson ardent. Moïse, élevé en Égypte, meurtrier d'un Égyptien, prend peur à cause de son meurtre et fuit dans le désert. Il va passer 40 années dans le désert. Et dans ce désert, un jour, il va voir une lumière sur une montagne un peu bizarre. Alors, curieux, il va voir ce qui se passe. Et il tombe sur cette scène que je vais vous lire. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, ce que nous appelons le buisson ardent. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Et il dit, « Moïse, Moïse !» Et Moïse répondit, « Me voici. » Un peu plus tard, il ajouta, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et un peu plus loin, si on lit le texte qui suit, on voit que Moïse lui dit « Mais quel est ton nom ?» et que Dieu va lui répondre « Je suis. Voilà mon nom. » Donc si vous regardez bien, vous voyez que vous voyez que dans ce buisson se situe un être qui s'appelle l'ange de l'Éternel, mais qu'un peu plus loin on oublie l'ange. C'est l'Éternel qui parle, et quand on lui demande son nom, il va dire, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et quand on lui demande son nom, il va dire, je suis. On retrouve donc un personnage qui est à la fois un peu distinct de l'Éternel, un peu distinct de Dieu, et Dieu en même temps, hein, puisqu'il est annoncé sous un autre nom, l'ange de l'Éternel, et après on lui dit, c'est l'Éternel. Et il se présente en disant, mon nom c'est Je suis l'Éternel. On voit donc bien ce que Jésus voulait dire quand il disait, avant que Abraham soit, moi je suis. Il existait donc bien aussi ce que Jean annonce la parole, qui était à la fois auprès de Dieu et Dieu. Alors certains ont voulu savoir un peu plus qui était cet ange de l'Éternel, parce que c'était une figure un peu énigmatique. Alors d'autres fois, hein, dans l'Ancien Testament, Dieu envoie un ange anonyme. Alors on ne sait pas trop qui c'est. Mais il y a cette figure de l'ange de l'Éternel, et certains ont voulu savoir qui c'était. Et il y a un dénommé Manoah, qui était juge. On trouve ça dans le livre des Juges au chapitre 13, et qui se trouve devant l'ange de l'Éternel et qui lui dit « Mais dis-moi quel est ton nom ?» Et l'ange de l'Éternel lui répond « Pourquoi tu me demandes mon nom ? Il est merveilleux. » Maintenant, on ne saura pas plus. Nous, il a fallu qu'on arrive après la naissance de Jésus pour peut-être imaginer que cet ange de l'Éternel, c'était à la fois Dieu lui-même, mais aussi le Fils de Dieu, celui qui s'incarnera en Jésus, pour en savoir un petit peu plus. Alors, il est tentant de dire que cet ange de l'Éternel, même si on n'a pas toutes les preuves, hein, qu'il s'agit là de Jésus, avant Jésus, qui venait faire un petit détour sur la terre, et venait agir déjà dans les hommes. Un autre point encore, si ce n'est pas clair, hein, vous me dites ? C'est clair ? Bon. C'est un peu compliqué, hein, je suis d'accord avec vous. Bon, alors je continue. La sagesse. La sagesse, dans l'Ancien Testament, on en parle beaucoup dans ce qu'on appelle les écrits de sagesse, c'est-à-dire en gros le proverbe, Ecclésiaste, un peu dans les psaumes. Mais justement dans les proverbes, la sagesse est décrite non pas comme une vertu, comme une qualité, mais comme une personne, un personnage. Et donc dans ce chapitre 8 des proverbes, on lit, il y a tout le début qui dit que la sagesse parle aux hommes, qu'il faut qu'elle instruive les hommes, que les hommes qui veulent se perfectionner doivent écouter la sagesse. C'est tout le début du chapitre 8. Et puis tout à coup, au verset 22, on voit que la sagesse devient tout à coup un personnage. Et ce verset nous dit « Moi, la sagesse, l'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. L'Éternel n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, quand il assigna à la mer des limites pour que les eaux ne la franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre. Sans cesse, objet de ses délices, je dansais devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de la terre, je trouvais mes délices dans les êtres humains. On retrouve des choses qu'on a déjà vues sous d'autres noms. La présence à côté de Dieu, la participation à la création, l'idée d'une certaine filiation, on dirait un enfant. J'étais là, je dansais, je jouais. L'intérêt pour les êtres humains. On peut donc bien penser que cette sagesse personnifiée, c'est une façon de voir, de décrire le Fils éternel avant qu'il ne prenne corps en l'homme Jésus. Et c'est d'ailleurs ce que Paul va dire, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 24, qui dit que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. On avance. Est-ce que Christ existait avant sa naissance à Bethléem? Son esprit, en tout cas. C'est ce que nous dit l'épître de Pierre. L'épître de Pierre réfléchit sur ce qui pouvait bien avoir, quelles pouvaient être les pensées qu'avaient eues les prophètes de l'Ancien Testament lorsqu'ils écrivaient des prophéties qui les dépassaient et qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et il écrit, on va lire ensemble, ce salut, question du salut auquel nous avons bénéfice, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous, pour nous. Donc dans ce texte, il est question des prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, David, Jérémie, tous ceux qui ont annoncé des choses concernant Jésus, mais tellement longtemps à l'avance que c'était pour eux des choses difficiles à comprendre. Et Pierre nous dit qu'ils se posaient des questions au sujet de leur propre message. Ce que je vous annonce, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous a lu Cathy tout à l'heure, cet enfant qu'on appellera Père éternel, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On comprend bien qu'Ésaïe lui-même a pu se poser la question. Et ce texte nous dit que ce qui les avait inspirés, c'était l'Esprit du Christ. C'est-à-dire qu'avant même que Jésus naisse, son esprit était à l'œuvre et inspirait les prophètes. Et leur parlait notamment des souffrances et de la gloire qui les suivrait. Alors on va conclure. Donc nous avons vu que si nous nous posons la question, est-ce que Jésus existait avant Jésus? Évidemment non, pas en tant qu'homme. En tant qu'homme, Jésus, il a commencé sa vie comme un bébé. On pourrait presque même dire comme un fœtus. Et puis comme un bébé, avant de devenir un petit garçon, un jeune homme, un homme. Mais l'esprit qui était en Jésus, cette nature divine de Jésus qui s'est incarné, était là bien avant que le corps de Jésus soit formé. C'est donc ce qu'on appelle la préexistence de Jésus. Et nous avons vu que cette préexistence s'est manifestée dans la création, qu'on va l'appeler la parole, la lumière qui donne vie aux hommes. Elle s'est aussi manifestée ponctuellement par l'ange de l'Éternel qui va aller parler à certaines personnes, des personnes importantes dans l'histoire. Elle va aussi, elle va aussi se manifester dans la sagesse qui est créatrice, mais aussi la sagesse qui va parler au cœur de tout homme et ainsi enseigner la sagesse de Dieu et l'Esprit de Christ qui va parler aux prophètes. En préparant cette réflexion, j'ai été émerveillé de voir, de comprendre que le plan de Dieu est toujours plus vaste, plus profond que ce qu'on imagine. Que ce Jésus qui naît à Noël, c'est pas un simple homme, même un homme parfait, c'est Dieu lui-même qui prend un corps. Ce Dieu lui-même qui est déjà un Dieu proche de nous, parce que c'est un Dieu qui s'est déjà approché des hommes sous les formes que nous avons vues. C'est un Dieu créateur, c'est un Dieu lumière des hommes, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu sagesse qui parle aux hommes. Depuis toujours, le Fils éternel est présent au milieu des hommes de diverses façons. Et, comme nous l'avons vu pour la sagesse, prend plaisir dans les hommes. Dans ces hommes pourtant rebelles, pourtant rétif, le Fils de Dieu prend plaisir en eux. Mais on comprend aussi que cette présence qui était furtive, qui était temporaire, l'ange de l'Éternel y venait pour quelques minutes et puis après on ne le voyait plus. Elle était souvent perceptible pour quelques hommes simplement et pas pour l'ensemble, que cette présence-là ne pouvait nous révéler Dieu vraiment. Il a donc fallu pour qu'on le connaisse, qu'il prenne un corps et qu'il vienne parmi les hommes pour que nous le connaissions vraiment. C'est ce que Jean conclut quand il parle de Jésus. Jésus, une fois incarné, il dit, Jean 1, verset 16, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, ce Dieu incarné en Jésus-Christ, celui-là nous l'a révélé. Ce Dieu, à la fois si grand et si proche de sa créature, qui nous connaît si bien et depuis si longtemps, nous ne pouvons que l'adorer, que l'aimer, et que le remercier. C'est ce que je vous invite à faire maintenant et dans toute la période qui précède et qui inclut la fête de Noël. Merci Seigneur d'être venu. Amen.